Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Saint-Siège ne cache pas son opposition à toute intervention armée en Syrie, susceptible d'entraîner une escalade régionale. Jeudi, le pape François recevra le roi de Jordanie. Ce pays frontalier de la Syrie connaît un important afflux de réfugiés qui suscite un ressentiment croissant alors que l'économie est déjà à la peine. C'est bien sûr la une de ce magazine. Nous évoquerons également le cinquantenaire du célèbre appel du pasteur Martin Luther King. Nous parlerons du chapitre général des Augustins qui s'ouvrira exceptionnellement par une messe du pape François, ainsi que de la grogne des Philippins qui ont reçu le soutien de l'Église catholique. Jeudi, pour la première fois, le pape François recevra en audience le roi de Jordanie, Abdallah II. Le souverain hachémite sera accompagné d'une délégation. Cette visite s'inscrit dans le contexte extrêmement tendu des crises syriennes et égyptiennes. La Jordanie est très préoccupée par l'aggravation de la situation en Syrie, qui laisse craindre une déstabilisation croissante de cette partie du Moyen-Orient. Une inquiétude partagée par le Saint-Siège, qui a multiplié les appels au dialogue, mettant en garde contre les solutions armées. Les échos sur une intervention armée des pays occidentaux se font toujours plus insistants et de moins en moins freinés par le devoir de prudence, note ainsi l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Au sein des communautés chrétiennes de la région, en Syrie comme en Égypte, certains vont plus loin en affirmant que des innocents, parmi lesquels de nombreux chrétiens, payent le prix de l'aveuglement récurrent de l'Occident devant les fanatismes. Reste à savoir si une intervention militaire serait conforme au droit international, avant tout fondée sur les principes fondamentaux de la charte de l'ONU. Selon Philippe Wekel, l'usage de la force en Syrie n'est légalement possible qu'à une condition.
On ne peut pas parler, s'agissant de la Syrie, de génocide. On peut même difficilement évoquer un crime contre l'humanité, parce que un crime contre l'humanité est une attaque systématique ou généralisée contre une population civile. J'ai des doutes que cette action à Damas est-tu seulement pour objet de toucher des civils? J'ai l'impression qu'il s'agissait surtout d'une opération frappant certes les civils, mais surtout destinée à déloger des éléments militaires. Il faudrait prouver que l'opération visait spécialement les civils. C'est un crime de guerre, incontestablement, d'une gravité importante. Mais s'agit-il d'un crime contre l'humanité? Sans doute pas.
Pour pouvoir intervenir dans un pays, il faut soit une résolution de l'ONU, soit une demande, on va dire, du pays concerné.
Il existe un grand principe l'interdiction du recours à la force. C'est un principe qui est suffisamment important pour que les dérogations soient très limitées. Il y a bien sûr la légitime défense, il y a l'intervention qui serait sollicitée par un État. Ça, ce sont les exceptions admises avec la possibilité de disposer d'une résolution du Conseil de sécurité. Il peut autoriser un certain nombre de mesures qui sont normalement interdites par le droit international et notamment il peut autoriser l'emploi de la force.
Qu'est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là pour que, d'une certaine manière, les pays occidentaux, l'ONU, soient obligés d'intervenir en Syrie?
On voit apparaître tout de même maintenant l'idée qu'on doit pouvoir, dans des cas tout à fait exceptionnels, agir en dehors de l'autorisation du Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité ne peut pas agir, alors qu'il a clairement le devoir de le faire, eh bien, les États membres doivent pouvoir suppléer la carence du Conseil de sécurité. Cela vaudrait, dans cette hypothèse très précise, très particulière des armes chimiques.
Des propos recueillis par Maxime Babser.
I have a dream that one day...
Je fais un rêve. Le 28 août 1963, sous la présidence de John Kennedy, le pasteur Martin Luther King prononçait un discours immortel devant le Memorial Lincoln à Washington. Martin Luther King défilait main dans la main avec des pasteurs blancs, mais aussi un père jésuite et un rabbin orthodoxe, souligne Dominique de Scherf dans France catholique, tandis que l'archevêque de Washington rappelle pour sa part que son message spirituel exigeant, le pasteur King le proposait au nom de la fraternité et de la dignité humaine révélée par le Christ. Antonino Gallofaro.
Un siècle plus tôt, Lincoln avait publié sa déclaration sur l'émancipation de l'esclavage. Mais en 1963, les gouverneurs du Mississippi et de l'Alabama s'opposaient toujours à l'entrée des Noirs dans les universités publiques de leurs États. Un projet de droit civique pétiné au Congrès. C'est Lyndon Johnson, sénateur du Texas, qui finira par faire passer la réforme en 1965, bien après la mort de Kennedy. Le pasteur King, lui, sera tué à Memphis 3 ans plus tard, dépassé par des contestataires plus jeunes qui n'avaient pas sa patience ni ses principes chrétiens. Selon l'éditorialiste Dominique Decher, il avait compris que la violence raciale polariserait la société américaine et la radicaliserait. L'archevêque de Washington insiste pour sa part sur le rôle essentiel joué par la foi chrétienne dans les choix du pasteur King. C'est elle qui le poussait à crier contre la barbarie. On reconnaissait dans ses discours les idées de saint Augustin et de saint Thomas sur la désobéissance aux lois injustes, ainsi que sur leur devoir de conscience qui pousse à l'engagement politique. 50 ans après King, les États-Unis ont un président noir, les mentalités ont évolué. Mais le fossé demeure. La dernière enquête d'opinion en 2012 révélait que si les 2/3 des Blancs estimaient que les Noirs jouissaient de l'égalité, la moitié des Noirs n'imaginaient même pas atteindre cette égalité de leur vivant.
Un des tigres asiatiques, les Philippines, est en plein boom économique et pourtant la population s'enfonce dans la pauvreté. Le pays a bénéficié au cours des derniers mois d'un fort taux de croissance. Manille apparaît aujourd'hui comme l'un des moteurs de la région, mais cela ne profite qu'aux riches et la grogne sociale monte. L'Église a porté son soutien à la marche contre la corruption et le gaspillage des fonds publics qui a rassemblé lundi des centaines de milliers de personnes. Un rassemblement géant organisé grâce aux réseaux sociaux. À cette occasion, l'archevêque de Manille a appelé les dirigeants politiques et toute la population à retrouver leur dignité et leur intégrité morale. Prêtres, étudiants, hommes d'affaires, commerçants, familles de la classe moyenne ont défilé pendant plusieurs heures, signalant l'étendue dans la société du ras-le-bol, l'enversement, l'endémique. Longuement applaudi, le cardinal Luis Antonio Tagle a demandé que les pauvres et les marginaux ne soient pas laissés de côté. Il a fait appel à la solidarité et à l'héroïsme qui ont toujours caractérisé la culture des Philippines. Il y a quelques jours, les évêques avaient déjà dénoncé les abus, les vexations et les inégalités sociales. Dans une note, le président de la commission épiscopale Justice et Paix a accusé le gouvernement philippin d'exclure les pauvres et les plus faibles du progrès et de la croissance économique. Selon lui, la politique actuelle fondée uniquement sur la loi des marchés ne fait que creuser un peu plus le fossé entre riches et pauvres. Le pape François inaugurera le chapitre général de l'ordre de Saint-Augustin ce mercredi, fête liturgique de Saint-Augustin d'Hippone. Le Saint-Père se rendra en l'église Saint-Augustin située en plein cœur de Rome, à 2 pas de la place Navone, pour y célébrer la messe. Au cours de leur chapitre, qui se poursuivra jusqu'à la mi-septembre, les quelques 90 participants venus du monde entier vont notamment devoir élire leur nouveau prieur général. Les différentes sessions permettront de mettre au point les priorités de l'ordre pour les 6 prochaines années et éventuellement l'ouverture de nouvelles missions pour répondre aux besoins des églises locales. Cet ordre a été fondé au XIIIe siècle par le pape Innocent IV. Il s'agissait de rassembler les nombreuses communautés érémitiques italiennes pratiquant la mendicité et se référant à la règle établie par saint Augustin au IVe siècle, leur père spirituel. Cet ordre se distingue donc par le fait qu'il résulte d'une volonté papale. Aujourd'hui, l'ordre est présent dans une 50aine de pays. Il est associé aux Nations Unies en qualité d'ONG et collabore étroitement avec la mission d'observation permanente du Saint-Siège à l'ONU. Audrey Radondi s'est rendue à l'église Saint-Augustin à la veille de la messe du pape. Reportage.
À quelques pas de la place Navone, cachée au regard, l'église Saint-Augustin. L'édifice de la fin du XIIIe siècle est surnommé le Petit Salon de Rome pour sa sobriété, sa beauté architecturale et ses trésors artistiques, parmi lesquels des œuvres du Bernin et du Caravage. Des œuvres que le cardinal Bergoglio a pu admirer. Le futur pape François logé toujours en face de cette église. Le père Angelo Di Placido, le curé de la paroisse de Saint-Augustin, explique pourquoi la venue du pape est importante.
L'importance historique, parce que...
Cet événement est historique parce que c'est la première fois depuis que l'ordre des Augustins s'est réuni en un seul corps en 1244 et que depuis se sont réunis 184 chapitres généraux qu'un chapitre général est inauguré par un pape. C'est important historiquement, en plus de la joie et de l'émotion, car le pape porte la joie, porte Jésus, et de fait, nous en avons besoin, nous aussi, les prêtres. Pour tous ces motifs, c'est important et historique, c'est un véritable événement.
un avvenimento.
Hyacinthe Kpomadje assistera demain à la messe célébrée par le pape. L'ordre de Saint-Augustin l'a encouragé à venir à Rome pour y faire son noviciat. Il attend avec impatience cette rencontre.
Ça, vraiment, je suis très content de participer à une messe corps à corps avec le pape demain. Bon, cela exprime la fraternité du pape avec l'Église entière et puis sa collaboration directe avec les Augustiniens en particulier.
Après avoir célébré l'Eucharistie, le pape François ira prier dans la chapelle de Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin. Il allumera un cierge, un acte de dévotion et de souvenir.
Le prieur général sortant, Robert Prévost, a indiqué que le chapitre comptait donner suite aux appels du pape François en faveur de l'élan missionnaire de l'Église, de la solidarité avec les plus démunis et de l'attention vers ceux qui se sont éloignés de l'Église. L'ordre a récemment ouvert de nouvelles maisons en Afrique, y compris dans des contextes difficiles comme l'Algérie et le Nigeria. Il poursuit par ailleurs son engagement en Asie et aux Philippines. En Europe, son travail a été affaibli par la baisse des vocations, tandis qu'aux États-Unis, au contraire, les vocations sont reparties à la hausse. Des structures de coordination intercontinentale ont été mises en place. En Belgique, l'église supérieure des sanctuaires de Borin a été élevée au rang de basilique mineure. L'événement a été célébré il y a quelques jours au cours d'une messe solennelle présidée par l'évêque de Namur, en présence de Gilberte de Gimbre, la dernière des cinq personnes à avoir vu la Vierge Marie il y a 80 ans. Élever l'église supérieure au rang de basilique est un titre honorifique qui est donné par le Saint-Siège à une église considérée comme importante. Pour le vice-recteur des sanctuaires, le père Christophe Rouard, ce titre est bien plus qu'honorifique.
C'est un honneur tout d'abord qui est rendu à la Vierge, qui est apparue là, il y a un peu plus de 80 ans. C'est une reconnaissance de l'importance du lieu, de l'importance de ses apparitions, de l'importance aussi et de la qualité donc, du travail qui est effectué dans les sanctuaires au niveau liturgique et pastoral. C'est un encouragement à aller plus loin encore dans le travail liturgique et pastoral et c'est aussi, on l'espère, une invitation pour que davantage de pèlerins encore viennent visiter les sanctuaires, visiter la basilique.
Est-ce que vous êtes fier peut-être de la reconnaissance de tout ce que vous avez fait dans le sanctuaire de Borin ?
Je suis personnellement habité par un sentiment de joie, de grande satisfaction, parce que j'y vois une reconnaissance quand même du travail accompli par l'équipe. Heureux de voir qu'on accorde de l'importance à ce lieu et heureux aussi d'avoir vu la célébration de nombreux pèlerins qui étaient tout simplement heureux d'être là et pour les organisateurs c'est toujours un bonheur de voir les gens heureux.
Et que pensez-vous de ce pape, de son attachement à la figure de la Vierge Marie? J'imagine que cela doit vous remplir de joie.
Évidemment, on a déjà eu le pape Jean-Paul II en 1985. Si le pape François pouvait venir chez nous, ce serait une joie immense.
Le vice-recteur des sanctuaires de Borin, interrogé par Maxime Mepser. Depuis l'avènement d'un nouveau pape, il est beaucoup question des réformes à venir dans l'Église, mais il peut y avoir des erreurs d'interprétation ou de jugement quant au sens authentique de ces réformes. D'où la réflexion proposée par le journal du Vatican dans son édition du 27 août. L'Osservatore Romano note que l'Église se renouvelle dans la mesure où elle renforce le corps du Christ et son union au Christ. Jean-Baptiste Cocagne.
L'Osservatore Romano explique tout d'abord que les réformes dans l'Église doivent favoriser la transparence. Il arrive, de fait, que l'on doive se débarrasser des pratiques et des habitudes qui compliquent ou entravent la transparence de la mission de l'Église dans le monde. Le quotidien rappelle ensuite qu'à côté des structures essentielles, d'institutions divines qui fondent la tradition, il y a, dans l'Église, d'autres structures qui ont été mises en place au fil du temps et qui peuvent donc être modifiées. Comme cela s'est du reste produit à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Le journal cite les réformes liturgiques et les innovations qui ont touché les organisations ecclésiastiques centrales, comme les congrégations ou la curie romaine. L'auteur de l'article reconnaît qu'il a fallu parfois surmonter une certaine léthargie ambiante, voire la résistance de ceux qui ne partageaient pas le même besoin de changement. Il y a enfin une réforme plus profonde qui vise à transformer les existences dans un sens chrétien. D'une certaine manière, c'est par la sainteté et l'adhésion à l'Église que l'on participe à sa réforme, beaucoup plus qu'en apportant des retouches à des aspects contingents de son expression qui, parce qu'ils sont dépassés, finissent par occulter l'essentiel. En clair, la réforme n'est pas toujours celle que l'on pourrait croire.
Alors que les États-Unis et la Russie affichent leur divergence au sujet du dossier syrien dans un contexte diplomatique qui est au plus froid, alors que le Saint-Siège redouble ses appels à la prudence, préoccupé par les risques d'embrasement régional, je vous propose de réécouter dans le cadre de nos rediffusions estivales un entretien réalisé en octobre dernier à l'occasion du 50e anniversaire des événements que l'histoire retiendra sous le nom de crise des missiles de Cuba. Les Soviétiques avaient installé à Cuba des rampes de lancement et des missiles nucléaires. Le territoire américain était directement menacé. John Kennedy ordonna alors le blocus de l'île. Le monde entier était suspendu à cet équilibre de la terreur qui menaçait de se rompre et d'entraîner une véritable guerre nucléaire. La crise finira par se désamorcer, ouvrant la voie à une ère de détente entre les deux blocs. Or, l'histoire semble avoir oublié le rôle joué par le pape Jean XXIII. Bernard Lecomte, journaliste et écrivain, auteur de l'ouvrage « Les derniers secrets du Vatican » aux éditions Perrin, évoque cet épisode méconnu de l'histoire au micro de Manuela à Fiji.
Alors, il y avait un journaliste américain, un progressiste, qui s'appelait Norman Cousin, qui avait publié une thèse disant s'il y a une montée aux extrêmes comme ça, si on ne sait plus comment arrêter l'engrenage nucléaire, il y a bien un personnage qui pourrait être le conciliateur, c'est le chef de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que il n'a pas de territoire à défendre, il n'a pas de pétrole, il n'a pas d'armes nucléaires, et il a une grande autorité morale. Donc le jour où il faudra trouver un intermédiaire pour régler une crise, eh bien pourquoi pas le chef de l'Église catholique. La thèse était connue aux États-Unis et elle était notamment connue de Kennedy et de son entourage. Alors le 23 octobre, Ted Sorensen, qui est un des conseillers de Kennedy, arrive à joindre Norman Cousin, qui est justement dans un colloque de scientifiques sur la paix, vous savez, comme il y en avait beaucoup à l'époque, avec des Soviétiques. Et Ted Sorensen explique à Norman Cousin que l'instant est absolument crucial, on est vraiment au bord de l'apocalypse nucléaire. Est-ce qu'il peut essayer de mettre en pratique sa fameuse thèse et est-ce qu'il peut essayer de joindre le pape tout simplement pour lui demander d'intervenir auprès de Khrouchtchev pour arrêter l'engrenage et pour faire valoir la négociation. Alors, Norman Cousin s'interroge, il est là avec un dominicain qui s'appelle le père Morlion, ils regardent leur carnet d'adresse et puis ils arrivent à joindre au Vatican Monseigneur Cardinale, le chef du protocole, lequel leur passe Monseigneur Dellacroix, qui est le substitut de l'époque, qui comprend que c'est très très grave, qui comprend que c'est très très sérieux, et qui convainc Jean XXIII d'écrire un texte à Khrouchtchev. Le lendemain, mercredi 24 octobre, le texte est envoyé aux ambassades américaines et soviétiques. Jean XXIII le teste même à l'audience générale devant des pèlerins qui ne comprennent pas bien pourquoi tout d'un coup il parle de la paix dans le monde et de la négociation. Et puis il est diffusé à midi sur Radio Vatican. Ce qui est absolument incroyable, ce qui stupéfie tous les observateurs, le lendemain, il est publié dans la Pravda. Vous imaginez l'étonnement des gens qui voient en une de la Pravda un texte du pape, du chef de l'Église catholique. Ça a quand même mis la puce à l'oreille de toute la diplomatie mondiale. Et en effet, au fond, ça voulait dire on a bien reçu le message. Et de fait, ce jour-là, le 25 octobre, une partie des fameux bateaux soviétiques qui traversaient l'Atlantique font demi-tour. Pas tous, on ne sait pas bien pourquoi aussi, mais enfin, visiblement, là, il y a un signe. Il y aura ensuite un télégramme de Khrouchtchev à Kennedy en disant « bon, on peut encore négocier ». Il y aura un deuxième télégramme de Khrouchtchev et on comprend à ce moment-là que l'apocalypse n'aura pas lieu.
Est-ce qu'on peut dire que le pape Jean XXIII a joué un rôle capital dans la résolution de cette crise ?
Oui, alors il faut être prudent. Sans doute n'est-il pas le seul à être intervenu. Je suppose, bien sûr, que du côté de Kennedy, on a fait d'autres essais pour joindre Khrouchtchev. Il n'y avait pas que celui-là. Mais visiblement, cette médiation du pape Jean XXIII a été déterminante. Et on le saura, d'ailleurs, on aura la confirmation de ça quelques mois plus tard, lorsque le fameux Norman Cousin, le journaliste américain, va aller voir Khrouchtchev au Kremlin. Il va être reçu au Kremlin, il va voir Khrouchtchev, il va lui dire « Écoutez, moi je voudrais savoir si vraiment tout ça a été déterminant, parce que au fond, personne ne le sait. » Et Khrouchtchev lui fait une réponse très étonnante, il lui dit « Mais en effet, vous savez, Jean XXIII et moi, nous sommes tous les deux fils de paysans et on se comprend. » Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des petits signes En 61, Khrouchtchev, tout le monde s'en était étonné, avait envoyé un télégramme de félicitations à Jean XXIII pour ses 80 ans. Vous voyez, des petites choses comme ça, qui montraient que, après tout, entre le Kremlin et le Vatican, tous les ponts n'étaient pas coupés. Enfin, Cousins a été quand même très surpris d'entendre ça, cette idée que Khrouchtchev et Jean XXIII avaient ces origines paysannes qui leur permettaient de se comprendre. Avouez que c'était quand même pas banal.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais n'oubliez pas de nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, merci de votre fidélité.